très heureux parce que Gérard Saad, vraiment, je pèse mon mot, est une figure dans le théâtre syrien. Ouais. C'est un grand metteur en scène, un grand comédien. Et puis, bien sûr, il a.
Même... C'est mon ami, il dit ça.
Non, c'est pas ça. Il a occupé tous les postes, même un peu comme moi de nous, ça, mais il a quitté à chaque fois. C'est-à-dire directeur de théâtre national, théâtre de la musique, voilà. Et puis, bon, enfin. Les gens qui regardent la télé et le cinéma dans les pays arabes savent très bien que c'est une... Mais bon, c'est pas pour ça. En tout cas, pour le théâtre, il a fait le Caligula à l'époque de Assad, il a fait Jason et Médée, tout ça, il était vraiment à Wax, enfin, c'est des textes très, très, très courageux et des très, très belles mises en scène. Il se trouve qu'il est en France, alors il me fera l'honneur de lire avec moi, parce que je vais lire... là, il me reste un. Hein. J'ai acheté les 20 derniers de ça. Il m'en reste encore un. Ça n'existe plus. Il faut peut-être chercher sur Internet. C'est chez Actes Sud, Rituel pour une métamorphose et les miniatures de Sadal Awanous traduites. Il y a une mort éphémère qui existe. C'est un livre inclassable entre nous. Ça existe. Une mort éphémère de Awanous. Ses derniers écrits qui a dicté à une fille. Elle était sur le lit de mort à l'hôpital. Bon, je vais lire ici très rapidement Rituel pour une métamorphose. Un conflit qui oppose le mufti de Damas au prévôt de notable. Le prévôt de notable, il se trouve dans une situation estricable avec une prostituée. Le mufti veut le sauver, il va aller voir sa femme et dire « Écoute, tu vas venir avec moi ce soir, on va remplacer la prostituée par toi. » Elle lui dit « Très bien, mais moi, pour une première fois, il y a une femme qui dit quelque chose, il dit non. Ah, comment ça se fait? Une femme, il dit non. Oui, ok, je dis non. J'accepte à condition que tu puisses avoir mon divorce. » Comment ça se fait tout ça? Le mufti, comment ça? Il regarde, il trouve, non pas une chèvre ou un mouton, comme il en a quatre chez lui, tout ça, mais une femme, un être. Pensant, il dit, j'ai lu. Ah bon? D'accord. Il tombe amoureux d'elle. Il lui obtient ça, elle devient la plus grande prostituée de Damas. Elle fait exploser la ville. Et le mufti lui-même tombe amoureux d'elle. Il va la voir, lui demande le mariage, elle refuse. Enfin, elle finit, qu'on va voir à la fin de la scène, par lancer une fatwa terrible licitant son sang, le sang de tout le monde, tout ça. Et puis à la fin, il renonce à sa fatwa, il va la retrouver. Bon.
Et moi, j'ai joué le mufti avec plaisir.
Si,
j'ai joué le mufti.
Bon, là, je vais lire, moi, je vais lire les deux. Une lecture, le mufti Al-Massar dans cette fameuse scène. Et puis après, on lira dans Le Viol, la scène polémique où Sadal Awanous, il est interpellé par Abraham Menouin, le docteur israélien de gauche, que Awanous crée. Il l'appelle et dit, il est Awanous, maintenant tu m'as créé, comment ça se fait, d'où est-ce que tu es venu là? Et là, la deuxième petite courte scène, je la ferai avec Jad. Alors, le mufti rentre tout agité. Votre père est hors de lui. Al-Massa, c'était inévitable. Pourquoi avoir arrangé cette entrevue? Parce que votre père le désirait. Parce que nous subissons tous le choc et l'horreur de cette situation. Comment était-il possible que vous tombiez dans cette ornière? Je suis stupéfait. Et pourquoi? Je vous l'avais bien expliqué pourtant. Vous voulez me faire endosser la responsabilité de votre horrible comportement? Pas du tout, Al-Massa. Mais je vous ai déjà parlé de la tentation du gouffre pour moi, le mufti. Je n'avais pas bien compris à ce moment-là le sens de vos paroles. Je ne vous comprends pas mieux aujourd'hui. Vous m'intriguez. Je ne comprends ni vos raisonnements, ni vos agissements. Ne cherchez pas à comprendre. J'ai besoin de comprendre. Vous êtes ? Il se reprend et s'interrompt. Al-Massa, je suis ? Je ne sais. Si c'est ma manœuvre qui vous a poussé dans cette voie, je suis prêt à réparer. Je veux décharger ma conscience. Que proposez-vous pour réparer? Je propose de vous épouser. Vous épouseriez une prostituée, cher Krasem? Ne vous dégradez pas. Vous êtes de noble souche. Ce qui est arrivé est une petite erreur que nous pourrons effacer. Votre offre est généreuse, mais je n'en suis pas digne. Bien au contraire. Vous en êtes la plus digne. J'oublierai tout. Vous serez la plus adulée parmi mes épouses. Tout ça pour alléger votre conscience? C'est plutôt... Oui, pourquoi pas? Je veux avoir la conscience tranquille. Vous pouvez être tranquille. Moi, je n'attendais que l'occasion pour me livrer à mes passions. Ce que je fais est mon libre choix. Je persiste à vous proposer le mariage malgré tout. Je n'ai pas divorcé de mon époux pour me marier avec son sosie. Vous refusez ma proposition. Ma position ne me permet pas d'en être digne, ni de l'accepter. Qui êtes-vous, femme? Que voulez-vous? Que cherchez-vous? Je cherche quelque chose qu'un homme serein tel que vous ne comprendrez pas. Qu'est-ce qui vous fait dire que je suis serein? Ne m'avez-vous pas dit que votre âme était limpide, que vous n'aviez rien dont vous puissiez avoir honte? Il se peut que j'ai dit cela. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Que voulez-vous? Quel est votre but? Dites-moi. Almasa. C'est difficile à expliquer. Cela vous paraîtra confus. Je vacille au bord du précipice. Le gouffre m'appelle. J'imagine que des plumes colorées vont me pousser sur la peau au moment du tomber. Du fond de moi-même, ces plumes jailliront, épanouies et parfaites. Je m'envolerai dans l'espace, comme les oiseaux, les brises et les rayons de soleil. Je veux rompre ces grossières cordes qui s'incrustent dans ma chair et qui paralysent mon corps. Cordes tressées de la peur, la pudeur, la chasteté, la souillure et les tabous. Cordes faites de leçons, de sermons, de versets de Coran et d'interdits. Les corps se fanent et s'étiolent derrière toutes ces chaînes qui s'accumulent. Moi, je veux libérer mon corps, cher Khasem. Je veux défaire les cordes qui le rongent et le paralysent. Je veux que mon corps devienne libre, qu'il rejoigne l'orbite qui lui convient. Comme les fleurs et les feuilles, comme la lune et l'herbe, comme les gazelles, les sources d'eau, la lumière, comme tout ce qui est vivant dans le cosmos. Je rêve d'atteindre mon moi, de devenir transparente comme le verre. Mon apparence, c'est ma vérité. Ma vérité, c'est mon apparence. Mon cœur en serre des passions brûlantes et des désirs ardents. Je n'arrive pas à trouver les mots justes pour les exprimer comme je le voudrais. Vous êtes étrange, Momina. Je m'appelle Almasa, vous dis-je. Je tiens à garder mon nom. Vous êtes bizarre, femme. Ce que vous dites est inconcevable. Qu'est-ce que cela signifie? Vous voulez dépeindre la dépravation sous un jour attrayant? Vous espérez atteindre votre but par la prostitution? C'est étrange. Étrange et bizarre. Dites-moi que tout ceci n'est qu'un caprice éphémère. Caprice? On ne bouleverse pas sa vie de fond en comble pour un caprice. Selon vos critères, tout ceci n'est caprice, ne peut être que bizarre et étrange. Selon les critères du monde entier, non seulement les miens. Vous avez bien raison. La première étape de mon trajet sera de rejeter vos critères, me libérer de vos jugements, vos catégories et vos conseils pour atteindre mon moi. Il faut aussi pouvoir transgresser le tabou, aller au-delà du viol, à la rencontre de mon corps, de le reconnaître. Vous avez fait des femmes un sexe faible qui peut être violé par un mot, un regard d'autrui. Puis, vous n'avez pas cessé d'abuser de leur vulnérabilité. Nous sommes tous devenus des reptiles qui s'entre-déchirent dans un marécage fétide de mensonges, d'apparences et de chaînes. J'ai décidé, moi, de sortir de la puanteur de cette mare, de devenir une mer cristalline. La prostitution me permet de me dépouiller du caractère et de la condition du sexe faible, de m'éloigner du confin de la peur et du viol. Mais je ne crois pas que vous me comprendrez. De toute façon, cela n'a aucune importance. Le mufti. Vous me donnez le vertige, Almasa. Je discerne dans votre intonation une détermination qui m'horripile. Vous touchez les interdits avec une impudence jamais vue chez une femme de notre ville. Je suis conscient que vous êtes la proie des passions violentes, mais je ne peux pas vous laisser avancer dans cette voie. Une femme ayant un tel langage et une telle détermination serait capable de corrompre toutes les femmes de l'Empire. Vous renversez nos habitudes, notre ordre et notre avenir. Non! Non, je ne peux le permettre. Qu'est-ce que vous allez faire? La fatwa est une arme efficace. Vous déclarez la guerre? Ce n'est pas mon intention, ni mon souhait. Enfin, voyons. Nous sommes tous sujets aux passions et aux désirs lorsque nous sommes seuls. Nous sommes tous hantés par Satan dans les moments de faiblesse. Vous avouez avoir des passions et des hantises? Le mufti énervé. Oui. J'ai mes passions et mes obsessions, mais je les domine, je les maîtrise. Écoutez, je m'intéresse à vous. Et malgré tous ces aveux, je continue à vouloir vous épouser. C'est à croire que je fais partie de vos hantises. Je ne sais pas comment appeler cela. Hantise, stupidité ou folie. Votre visage me poursuit depuis que je vous ai rencontré. Vous êtes l'inquiétude dans mon cœur et le trouble dans mon âme. Je ne sais pas quoi dire. Soyez raisonnable. Acceptez ma proposition. Serait-ce l'amour, vénérable mufti? Je n'ignore ce que c'est. Ne me demandez plus rien. Est-ce que vous acceptez ou vous refusez? Nos chemins sont différents. Mes désirs ne peuvent pas être assouvis par le mariage. Je vous en conjure. Ne vous hâtez pas. Réfléchissez bien avant de répondre. Je vous désire. Almasa, toute femme serait fière d'un tel aveu. Mais qui puis-je? Je viens de dire à mon père que mon destin était scellé, que je ne pouvais ni le fuir, ni le renier dorénavant. Dans ce cas, c'est vous qui déclarez la guerre. Si guerre il y a, il fait partie aussi de mon destin. Lorsqu'on quitte le bord pour s'envoler dans l'espace, impossible de revenir en arrière. Adieu, vénérable Mufti. Au-delà du bord, il n'y a que l'abîme. Almasa, en sortant, je n'oublie pas. Le Mufti. Seigneur, quelle femme. Où est-ce que je glisse? Comment assagir les battements de mon cœur? Seigneur, je suis envoûté, je suis épris. Il n'y a plus de félicité dans mon âme. Rien que l'obsession et le chagrin. La lumière disparaît. En fait, j'ai tenu à lire cette scène de bout en bout parce que le Mufti, il est traité comme un tartuffe dans beaucoup de propositions, même une ou celle de Nadal Ashkar ou Sardallah l'a vu. Mais pour moi, le Mufti est un homme sincère, c'est un idéaliste du dogme, c'est-à-dire vraiment c'est quelqu'un qui va aller égorger des centaines de personnes pour ça. Mais non, c'est quelqu'un qui a été touché par cet amour. Il a tout essayé pour légaliser, parce qu'ils ont leur loi, légaliser ça, c'est-à-dire se marier d'elle. Et quand elle l'a pas accepté, il est allé. Voilà. C'est pourquoi, moi, je trouve... Et c'est là, quand je parlais avec Wanous, maintenant, il dépeint des personnages épais, des personnages avec toute la complicité et la nuance, et non pas... Parce que ça, c'est le symbole d'un tartuffe. C'est quelqu'un que, voilà, il a le désir de femme. Mais or, pas du tout. C'est de l'amour. Pour une fois, il rencontre une femme, un être, une femme. Voilà, quelqu'un qui a lu, et non pas la servante, enfin, je veux dire, la servie qu'on a élevée comme ça, pas cher. Voilà. Maintenant, on va lire une scène... polémique du viol, le texte où Anous aussi, pareil, donne, je dis, de la complexité et de l'existence, c'est-à-dire l'humanité, et l'humanise, enfin, il donne un regard humanisant pour un arabe et pour un syrien sur la société israélienne, tout en, bien sûr, il ne se regarde pas du tout de critiquer, de donner des critiques très, très importantes au sionisme, mais en tout cas pour dire, ben voilà, qu'on est des humains. Alors, c'est à la fin de cela, ça s'appelle le livre de la fin. Un dialogue probable entre le docteur Abraham Minouin et Sardallah Ounous. Une lumière éclaire le docteur dans son cabinet.
Oui, mais je dis deux mots. Je peux dire deux mots?
Je t'en prie.
Deux mots.
Si vous permettez.
Voilà, deux mots. De toute manière, moi, je suis de passage à Paris. Je suis venu là il y a 6 jours. J'ai rencontré mon ami Fida. C'était par hasard. J'ai appelé Ramzi, qui participe avec vous dans cette conférence. Et on m'a dit qu'il y a une conférence de théâtre. Je n'ai pas pu résister parce que c'est le dialogue qui nous attire ces jours-ci dans le monde entier, qu'on a besoin d'un dialogue entre les peuples. Alors la langue de ce dialogue, c'est le théâtre. Vous connaissez ça, nous, tout le monde, nous le savons très bien. C'est le théâtre, c'est le portail de qui s'ouvre pour connaître l'autre bien comme il faut. Moi, j'ai vécu 2 ans en France pendant les années 70. J'étais étudiant à l'école de l'architecture de Lyon. Et j'ai pas cessé de revenir en France, être en contact avec le théâtre français, les gens qui travaillent ici, pas seulement en France, un peu partout dans le monde arabe, en Amérique, un peu partout chez nous, etc. Ce qui a la différence entre 73, 74 en France et maintenant, c'est qu'il y a un dialogue parmi les gens qui viennent de l'extérieur et les gens de l'intérieur du pays d'une manière complètement différente. Peut-être à cause de la télécommunication, les communications qui ont ouvert un autre monde à l'autre. C'est-à-dire, nous, on a besoin de ce dialogue pour se connaître, parce qu'il y a quelque chose de très commun maintenant ces jours-ci dans le monde entier qui va créer une langue commune, quoi que ça soit ce qui se passe dans le monde. C'est un genre de mouvement qui va en pleine vitesse, c'est une sorte de changement de réalité, de mentalité, parce que les mentalités maintenant c'est pas seulement, ne représentent pas seulement la nationalité d'un pays ou d'autres, parce que maintenant la mentalité dans le monde entier, c'est une mentalité ouverte complètement à l'autre. Moi, ce que j'ai senti depuis ce changement pendant 30 ans jusqu'à là. Alors, le théâtre, maintenant, c'est la mission qui va porter à l'autre, c'est ce dialogue entre les peuples. J'étais très content en bas quand j'étais en train d'écouter. J'avais pas le droit de parler, mais maintenant, j'estime de ce que je vais dire avec toi. Alors, je m'exprime aussi. Et puis, ce qu'on veut, nous, les gens, vous tous, nous, qui font du théâtre, qui ont déjà fait beaucoup de théâtre, bah, beaucoup, c'est pas la quantité, c'est la qualité aussi. En même temps, c'est de traduire ces rencontres en action sur scène, c'est-à-dire ce qu'on rêvait toujours. On disait pendant les festivals, les conférences, qu'on doit traduire nos idées d'une manière pratique sur scène, d'une manière qu'on peut créer des spectacles partout bah, pour ceux qu'on aime. Merci bien d'être là. Hier, quand on s'est rencontrés, je connaissais pas le français. C'est lui qui m'avait appris le français pendant 6 heures.
Il veut dire qu'il va mal lire.
Okay. Et voilà. C'est une préface parce que je vais lire mal. Voilà. Je suis un très mauvais acteur, Hassan le connaît.
Passe où le docteur
voilà. Le docteur.
La première fois on dit le docteur.
Le docteur. Où est Sadalounous?
Me voilà.
Nous sommes au sommet. Et le personnage que vous avez nommé Abraham Menuhin s'est accompli. D'où vous est venue l'inspiration?
D'un rêve. Le propos et les témoignages de quelques juifs courageux ont confirmé qu'il pouvait se réaliser.
Alors, vous croyez que l'existence de quelqu'un tel que moi est possible?
C'est même certain. S'il n'existait pas des gens comme vous, l'horizon de l'histoire s'assombrirait.
N'êtes-vous pas trop confiant?
Si nous nous rappelons la liste des intellectuels juifs qui ont refusé le sionisme et qui se sont opposés, vous ne pouvez pas dire que ma confiance soit excessive.
Oui, ceci dit, pensez-vous que je puisse être honnête à ce point?
Celui qui s'est mis au service de la justice et non pas de la loi ne peut qu'être honnête.
Ah, même si ça me conduit à abandonner mes proches et mon peuple?
Vous ne les abandonnez pas. Plutôt, vous les protégez. Vous pressentez que le chemin qu'ils empruntent est périlleux et que l'idéologie qu'ils suivent est une impasse. Est-ce que Jérémie a abandonné ses proches et son peuple? Son cœur se fondait de tendresse quand sa langue proférait des malédictions.
Mais personne n'a écouté Jérémie.
Un temps viendra, ils écouteront. Dans les pires moments, il est important qu'émergent des personnages qui dépassent les mensonges pour entreapercevoir un horizon historique nouveau.
Le courage ne suffit pas. Vous n'imaginez pas la force spirituelle dont quelqu'un comme moi a besoin pour être juif et contre le sionisme.
Je peux, monsieur, imaginer la force dont l'individu a besoin pour dépasser sa condition. Et moi-même, j'ai rassemblé toutes mes forces pour vous discerner et vous représenter.
Est-ce très difficile de représenter des personnages comme moi?
Il m'a fallu franchir plusieurs barrières. La perplexité historique et la démagogie politique qui interdisaient la reconnaissance de ton existence. La peur du vaincu de la tromperie et un abîme fait de victimes et de blessures, s'ajoutant à tout ceci les complots policiers et les traqueurs d'espions. Oui, il m'a fallu franchir toutes ces barrières pour faire exister le personnage du docteur Abraham Menuhin.
Ah, mais c'est un personnage habité par le refus et la protestation.
Il sait que cette idéologie est un bourbier pour les Arabes autant que pour les Juifs.
Bah, si vous voulez.
Et en plus, il m'a fallu franchir les barrières qui sont au fond de moi-même et qui m'entourent.
Ah, je ne pensais pas que notre rencontre serait le lieu de tous les dangers. Mais comme chacun de nous veut dépasser sa condition, je vous pose une question. Est-ce que l'honnêteté est réciproque dans cette histoire?
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Il m'a fait peur, cette phrase qui résonne dans la pièce. C'est soit eux, soit nous.
Est-ce que vous pensez que nous pouvons, vous et moi, vivre avec des gens comme Maïr, Gédéon ou Moshe?
Cela, non. Mais l'expression en elle-même est extrémiste et effrayante, quand même.
Non, cette expression ne veut dire qu'une seule chose. Il est impossible de sortir d'un tel pétrin si l'idéologie que Maïr, Gédéon et Gédéon représentent domine dans l'autre camp.
D'accord. Et les prisons? Vous avez détaillé ce qui se passe dans les prisons d'ici et vous avez ignoré ce qui se passe dans les prisons arabes.
Écoutez, J'ai longtemps hésité avant de me mettre à écrire cette œuvre. Et l'une des raisons de cette hésitation est ce sentiment amer que la pièce puisse être une forme de manigance. Oui, monsieur. Il faut que le noteté soit réciproque. Et j'avoue que les prisons de notre côté ne sont pas plus indulgentes ni moins cruelles. Mais est-ce que vous pensez que ces régimes et ces prisons nous représentent? Ou que notre conflit avec Israël les préoccupe? Non, monsieur. Ceux qui sont rendus pour l'Israël de Maïr, ceux qui se préparent à se rendre, ceux qui oppriment et écrasent leur peuple et ceux qui pillent et détournent les fonds de leur pays. Non, monsieur, notre problème est double. Et la situation de notre côté est plus compliquée, ce qui demande une lutte dure et organisée pour s'en sortir. Oui, monsieur. Il faut que l'honnêteté soit réciproque, même si le prix à payer est élevé. Nous ne pouvons pas nous sortir d'une telle impasse historique qu'en payant des prix exorbitants.
Et maintenant, comment imaginez-vous la fin de mon personnage dans cette pièce?
Et le roi Sédécias a ordonné de mettre Jérémie en prison et de lui donner un pain chaque jour jusqu'à ce qu'il ne reste plus dans toute la ville. Ils vont venir doucement, en souriant, pour vous mettre la camisole de force et vous emmener dans un hôpital psychiatrique.
Et vous, qu'est-ce qui vous attend?
L'hostilité des extrémistes israéliens et des extrémistes arabes.
Alors, il nous reste la compassion.
La compassion. Et peut-être l'espoir.
L'espoir.
Bon, je fais un petit pub. Ce rôle sera joué par Bruce Myers.
Oui, ça devait être comme ça. Mais...
Non, pas, c'est à la hauteur de toi.
Mais non, mais moi...
Non, dans le spectacle.
Ça m'a effrayé hier que tu m'as dit ça, parce que j'allais dire que non, je ne fais pas ça.
Dans le spectacle que tu répètes en ce moment?
Oui, c'est Bruce qui joue ce rôle.
Mais pour le spectacle...
J'ai accepté de jouer le rôle aujourd'hui pour lui convaincre que je peux faire la même chose avec toi.
Non. Le livre de Damas, c'est prophétie, oui. C'est Bruce qui fait ça.
Merci. C'est fort.
Bon, voilà, je ne sais pas si vous avez... Est-ce que maintenant, on a une idée de Wanous?
Oui. Très envie de le lire, surtout.
Alors, on le connaît très bien, on le connaît, c'était...
Non, mais pas nous, on connaît, mais pas...
Nous, c'est mon ami. Parce que vous, la génération qui est venue juste après 15 ans...
Je parle ici, justement.
On a vécu
dans
beaucoup
le monde,
de...
on ne connaît pas. C'est magnifique, c'était...
Ouais.
Et
le Fida, tu vas voir un spectacle de miniatures, c'est ça?
Non, je voulais faire miniature avant, appeler miniature, c'est avec miniature historique, c'est le livre de Wanous, et miniature contemporaine, c'est le livre de Damas. C'est un travail sur deux textes de Wanous. Et puis, les jours passant, le miniature historique m'est sorti complètement, avec ce qui se passe en Syrie, tout ça. Je n'ai plus envie de revenir 4 siècles en arrière. Et je fais qu'un spectacle qui s'appelle « Le livre de Damas et de prophétie ». C'est le viol. Et je garde le tableau israélien. Et à la place du tableau syrien, je mets un autre spectacle de Wanous qui s'appelle « Un jour de notre temps ». Un spectacle a écrit en Syrie dans les années 90 où il montre que tout le pays se prostitue devant la photo du président. Et c'est terrible. C'est vraiment... comment le système en place... corrompt complètement la société syrienne. Et puis à la fin, Wanous, à la fin, le héros Farouk, il se suicide avec sa femme en faisant l'amour. Et ça, c'est parce que Wanous, à un moment donné, il a dit, enfin bon, c'était une période où, voilà, il a dit, voilà, je suis, comment dire, arrêtez ce monde, je veux descendre. En fait, mais il a dit ça, hein, il a écrit en Syrie, ça, ce texte, tout ça, il a écrit ça en Syrie, blindé par un cancer. Hein. Il a eu un cancer en 92, on lui a donné 6 mois, il a vécu 5 ans. Et je crois que dans ces 5 ans, déjà, il avait une conscience aiguisée de... parce qu'il a dit... quand on lui a dit, mais pourquoi parler de tout ces... étendre notre linge sale, c'est en parlant de l'homosexualité, de la prostitution, de la société syrienne, il a dit, là où je suis. Et vraiment, moi, pour moi, je préfère le dire en français, parce que le là où je suis en français, c'est espace-temps, mais pas qu'en arabe. Là où je suis, il n'y a que la vérité qui m'intéresse.
La vérité
qui m'intéresse. Là où je suis,
la vérité qui m'intéresse.
Voilà, bon, merci à vous.
Mais évidemment, tu vas représenter ça à Paris.
On jouera ça du 16 au 25 à Vitry-sur-Seine. Voilà. Et du 6 décembre au 20 décembre à l'Aquarium à la Cartoucherie. Et le 22 et le 23 à Tunis.
Merci. Merci.
Décembre.
D'abord, vous remercier infiniment d'avoir accepté de venir, d'être présent pour cette table ronde qui, je pense, est essentielle quand on veut parler de théâtre politique, avant tout de laisser beaucoup la parole donc aux créateurs eux-mêmes. Et donc, je suis vraiment très, très, très heureuse déjà que toutes ces personnes qu'on avait potentiellement invitées soient vraiment venues et que vraiment ça se passe, quoi, voilà. Donc, en fait, je suis vraiment très, très contente, voilà. Donc, je vais essayer de mener un peu ce débat à partir peut-être des questions qui sont soulevées ici, mais surtout, la parole est à vous, sachant que, comme vous êtes des artistes, vous êtes souvent très bavards, et donc, n'oubliez pas qu'il y a peut-être quelqu'un à côté de vous. Donc, qui voudra vous voler la parole. Donc, je vais essayer d'organiser un peu tout ça, mais on essaye, voilà, de bien se faire passer la parole. Voilà, donc, est-ce que... Donc, en fait, moi, j'aurais voulu lancer le débat sur une question suggérée par Kaysar, qui est une de mes étudiantes que j'aime beaucoup et qui nous a beaucoup aidé pour ce séminaire. Donc, je la remercie. Et donc, César m'a dit, mais le plus important en fait pour moi, et c'est pour ça que je suis là, elle m'a dit, c'est que vraiment je voudrais savoir quelle esthétique, elle est artiste aussi, et elle dit, quelle esthétique il faut que je choisisse maintenant pour faire du théâtre politique. J'ai dit, très bonne question, on va commencer par là. Et donc je vous soumets la question pour vous aujourd'hui, et je pense que ça a été essentiel dans les débats, c'est comment on peut faire finalement pour avoir cette esthétique qui va nous créer une émotion esthétique. Quand on parle d'esthétique, c'est sans doute avant tout dans cet objectif-là. Et comment créer cette émotion esthétique à partir donc, des thèmes choisis souvent donc, autour du théâtre politique. Donc on a bien vu l'importance, par exemple, d'un choix de musique super contemporaine, par exemple le hip-hop dans le cas de Bloody Niggers, ou d'autres choix dans une volonté justement de toucher un public extrêmement contemporain. Il y a un metteur en scène actuel qui s'appelle ici en France, qui s'appelle Benoît Lambert, et qui dit toujours, quand on parle de théâtre populaire, on imagine les lampions et les scènes avec du bois, sauf qu'aujourd'hui, le théâtre populaire, c'est peut-être juste plutôt de chanter une chanson de Renaud, et que peut-être que ça nous parle plus. Donc voilà, il est assez provocateur, Benoît Lambert, mais l'idée, c'est un peu ça que j'ai ressenti aujourd'hui, dans les débats hier aussi, c'est comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour faire du théâtre politique. Voilà, sachant qu'on a eu la chance d'avoir les propos de Philippe Hivernel par rapport à comment ça s'est lancé au départ, et on sait la modernité de Piscator, avec ses scènes tournantes, l'introduction du cinéma, etc. Et comment aujourd'hui on fait du théâtre politique. Voilà, je vous laisse la parole. Donc.
Mais c'est une question qui n'est pas du tout facile. Mais concernant l'esthétique, moi je pense que il y a plusieurs choses tout à fait possibles. Partant de ma propre situation, je me suis dit, bon voilà, souvent, que ce soit en Afrique, même pour les gens qui y habitent, ou même dans la diaspora, on est souvent d'une double culture. Et que choisir une forme totalement pure, déjà, c'est se tromper parce qu'on ne sait pas à quel moment, effectivement, on peut parler d'authenticité d'une culture africaine, parce qu'elle est de fait métissée. Et puis aussi, moi, je m'inscris dans une fidélité par rapport au temps. J'essaie de trouver, en tout cas, un médium qui soit celui d'aujourd'hui, dans lequel les gens se retrouvent, effectivement. Par exemple, le choix d'une musique urbaine me semble effectivement une manière d'aujourd'hui de transmettre, par exemple, d'accompagner justement un texte. Tout en reprenant aussi des formes anciennes. Par exemple, là, je disais par rapport à Bloody Niggers que on se conçoit comme des griots. Le terme, je ne le récuse absolument pas. Dans la manière, surtout dans l'idée que le griot souvent raconte la geste des hommes puissants. Ici, c'est la geste plutôt des peuples opprimés. Mais le griot, dans sa saga ou dans son épopée, essaie de créer l'unité d'un peuple. Ici, comme il est question aussi de dénoncer des identités un peu morcelées, c'est aussi alors de les dépasser, de trouver quelque chose, une conscience qui puisse réellement unifier, en fait. de faire une conscience qui créerait une autre identité, en fait, qui ne soit plus une identité à l'ancienne, mais d'aujourd'hui, et avec le partage justement d'une histoire. Alors, par rapport au propos politique lui-même, effectivement, en parlant de théâtre politique, il y a aussi, pour moi, la subjectivité de la manière de parler, c'est-à-dire pas très éloigné aussi, hein, en fait, du discours ou de la prêche, de telle façon, non, ça peut cliver, mais en fait, de ne pas... anesthésier en fait un sujet de telle façon qu'il puisse réellement susciter un débat après, sachant qu'on n'apporte pas des solutions, mais on peut poser des questions et justement de renouveler les questions qui nous concernent, surtout partant d'Afrique en fait. Qu'il y ait quelque chose en tout cas qui puisse un petit peu permettre à des propos qui peuvent être tabous de se poser dans la radicalité. Et c'est tout le choix de la radicalité, c'est à la fois dans le ton, mais dans l'esthétique elle-même, justement, de la mise en scène. Ici, j'ai travaillé surtout avec un metteur en scène avec que je connais très bien, qui est Jacques Delcuvelry, avec qui on avait déjà travaillé sur Rwanda 94, par exemple. Et en assumant aussi que, pour moi, auteur africain, artiste africain, ça peut aller au-delà de quelqu'un qui est issu de l'Afrique. Je considère qu'à partir du moment où quelqu'un, comme, par exemple, comme Jacques, qui s'est positionné sur un théâtre et des thèmes politiques concernant l'Afrique, que ce soit avec Rwanda 94, que ce soit avec discours sur le colonialisme, il appartient pour moi à cette famille, en tout cas, d'artistes africains, entre guillemets, qui portent. Donc, ce n'est pas une collaboration, comme je dirais, Afrique-Occident ou blanc-noir, mais c'est plutôt dans cette identité nouvelle de conscience, effectivement, où je sens que, tiens, on est plutôt plus du même bord, en fait.
J'aurais aimé passer la parole justement à José Plia, parce que toi tu revendiquais beaucoup une modernité, un classicisme en fait dans ta façon d'écrire le théâtre et dans ta façon d'interpréter, mis à part cette performance un petit peu différente. Comment tu réagirais par rapport à ces propos-là, justement dans un but d'une forme esthétique enfin, distincte, quoi, par rapport à ce que disait Torsi?
Pour ce qui me concerne, j'ai toujours le... je trouve que lorsqu'on parle de l'Afrique en général, on est toujours restrictif parce qu'on, c'est peut-être l'esprit cartésien que nous avons en France qui fait cela, mais on a besoin peut-être de mettre dans des cases. Or, moi, ce qui me frappe, en tout cas, quand je vois mon parcours personnel et puis quand j'observe les artistes du continent africain, je me rends compte qu'ils sont... effectivement, la notion de pureté ou d'authenticité n'a aucun sens. Elle est même absurde. Parce que je les vois toujours au carrefour de, pas seulement deux identités, mais de mille et une identités. Et ce qui fait leur richesse, c'est ce croisement, cette espèce d'interpénétration, tout en gardant quelque chose qui est fondamentalement africain et qui ne se, pas toujours, mais souvent chez les, je trouve, les artistes qui réussissent leur pari artistique, le primat africain ne se pose pas en termes de défense et illustration, mais plutôt comme une évidence, quoi, dans le parti pris. Voilà. Moi, je me méfie toujours des revendications. Je pense pas que le théâtre soit un lieu de revendications, de manifestes. Ce théâtre-là existe, mais c'est peut-être pas celui que moi je préfère. J'ai pour habitude, de manière un peu provocante, mais c'est en même temps une provocation que j'assume, de dire que pour moi, l'un des plus grands textes de théâtre africain, c'est Combat de nègres et de chiens de Coltès. Voilà, parce que je crois que notre rapport au monde, c'est un village, on est un village, et le théâtre est encore ce grand village où les choses se traversent, s'entrecroisent. Donc parler d'esthétique aujourd'hui me paraît effectivement essentiel, parce que ce que je vois, alors moi je ne vis plus au Bénin, je suis parti il y a très longtemps, j'ai vécu en Afrique, dans d'autres pays africains, maintenant je suis plutôt du côté des Antilles, puis j'y retourne, donc je retourne au Bénin dans le cadre du théâtre, souvent autour de festivals. Et encore tout récemment, j'étais au Festival de théâtre du Bénin, dont je parlais hier. Et c'est souvent le moment pour moi de rencontrer ces esthétiques-là, théâtrales. Où est-ce que le continent... parce que comme c'est un festival panafricain et international, on voit beaucoup de troupes circuler. Et ce qui me frappe, c'est que la dimension esthétique, à quelques exceptions près, elle est... Je la trouve secondaire. Je trouve que c'est une dimension. S'il y a une esthétique, je la trouve par défaut, parce que ce qui me semble prédominer de ce que je vois dans les propositions, c'est beaucoup plus l'urgence de présenter. Hier, notre ami Hassan parlait. Oui, c'est lui. Oui, c'est ça. Le metteur en scène. Non, le metteur en scène syrien.
Ramzi Shouker.
Voilà, qui parlait de ce que, selon lui, la Syrie et beaucoup de pays arabes n'avaient pas la culture et les arts au cœur d'un projet. Et de manière un peu radicale, il disait il n'y a pas de théâtre en ce sens-là. Il y a un théâtre qui est pris en charge par les... Et tant mieux, d'ailleurs, quelque part. Je trouve que c'est ça qui est salvateur. Et bien, en Afrique, l'exemple du Bénin est intéressant parce que l'affichage des autorités béninoises, c'est que le festival international... Ça a souvent été loué. C'est l'un des rares festivals d'Afrique noire. Je sais qu'au Maghreb, c'est différent, notamment en Tunisie, festival de Tunis. Mais en Afrique noire, à l'exception du feu... festival de Côte d'Ivoire, comment ça s'appelait, le Massa. À l'exception du Massa, le FITEB avait cette particularité d'être un des rares festivals où les autorités béninoises mettaient vraiment, il y avait non seulement une logistique des autorités, mais de l'argent, vraiment un budget voté. C'est assez rare pour être souligné, et c'est souvent ça qui a beaucoup fait l'honneur d'un peu de ce festival. C'est très bien, sauf que entre l'affichage de la Syrie ou de la récupération au théâtre national, et puis cet apparent investissement, même financier, sur un festival, le résultat est un peu le même, parce que les autorités béninoises font ça, elles sont à la soirée inaugurale pour s'afficher, et puis on ne voit plus personne, ni le ministre, ni personne pendant les 3 semaines que dure le festival. Et donc on se pose la question d'une réelle implication. Du coup, les artistes qui participent à cela, qu'ils soient béninois ou africains, je trouve que leur urgence, elle n'est pas esthétique dans ce contexte-là. Elle est dans le faire, pardon. Elle est dans le faire. Elle est dans l'acte de présenter quelque chose. Parce que les conditions de logistique sont absolument désastreuses. Il faut accepter de perdre tous ses repères habituels, vraiment, parce que les spectacles commencent avec 2 heures de retard. Quand on fait venir des professionnels d'ici, ils sont complètement... Ou ils sont sous le charme et ils acceptent le... Bon, moi, le charme a des limites, parfois, parce que c'est vraiment très, très, très difficile. Donc, on est dans... Et voilà, donc ça, pour moi, ce qui m'a frappé à ce dernier, pourtant c'est la 12e édition de ce festival, je me dis au bout de 12 éditions, on en est encore là, en termes de logistique, parce que je crois que, je pense profondément que les esthétiques au sens d'invention d'un langage, d'une grammaire scénographique, théâtrale, de l'invention de quelque chose qui serait un discours sur la matière théâtrale, ne peut dans le temps s'installer, se développer, que si il y a, voilà, cet écrin, un minimum de conditions, Parce que l'urgence, le happening, l'inspiration, c'est bien, mais ça, le souffle court au bout d'un certain temps. Les artistes ont besoin, je crois, de à un moment donné, que les choses soient vraiment, vraiment prises en compte. Mais voilà, bon an, mal an, ça existe. Et il y a des fulgurances esthétiques qu'on peut apercevoir. Mais je serais vraiment incapable, il faudrait que je sois... vraiment, au terme de ce festival dont je sors, de dire j'ai vu une ou des esthétiques du théâtre africain se dessiner. Si je devais retenir quelque chose là, je dirais j'ai vu quelque chose qui est vraiment très sain, des interprètes, des artistes, des créateurs formidables parce qu'ils ont toujours cette urgence de présenter. Complètement, absolument,
donc
voilà.
C'est politique, mais tu n'as pas vu une esthétique particulière, parce que tu parlais.
Oui, voilà, c'est ça. Ou alors, en tout cas, je vous dis, les conditions dans lesquelles cette esthétique peut se déployer. Et je sais qu'il y a des artistes, par exemple, il y a un très beau, très très beau spectacle qu'on a vu ici et qui était invité. Moi, j'ai eu la chance de le voir ici et il était invité au festival. C'est l'adaptation du roman de Wilfried Sondé, Le cœur des enfants léopards. Donc, on l'a vu au Tarmac, ce spectacle. Dieudonné Nyanguna en a fait une très belle adaptation, belle mise en scène. Voilà, Chris Nyanguna. C'est un superbe spectacle. Bon, et il y a une esthétique. Dieudonné a une... Voilà, il y a une esthétique, un parti pris, il y a une lecture. Bon, arriver... Je comprends qu'on soit dans l'urgence, mais arriver à Cotonou, à Porto Novo, à Ouida, il y a un comédien. Il y a pas d'esthétique. On ne peut pas parler d'esthétique. Bon, il y a une direction d'acteur, il y a un comédien formidable qui déroule. Mais voilà, ce qui fait le langage de la chose théâtrale, voilà, tout ce qui accompagne en création lumière, on parlait du son, on parlait une représentation sur deux, le son ne marchait pas. À un moment donné, on a commencé à jouer à l'université d'Abomey-Calavi en plein milieu, panne de courant. Donc on va chercher un groupe électrogène, on entendait plus le groupe que le comédien. Mais, bon. Moi, je veux bien, mais il arrive un moment, je me dis, bon, voilà, c'est aussi ça les limites de la chose, quoi. Donc, je me dis, le seul endroit où on a pu voir le spectacle dans des conditions, voilà, de ce que le créateur a voulu rendre, c'est au Centre culturel français. Voilà, c'est le seul endroit. Mais partout ailleurs, dans les endroits où cette parole a aussi, et je crois que c'est... qu'on le présente ça au Centre culturel français, qu'on sait qu'il n'est fréquenté que par les mêmes. Bon, mais ça, c'est évident. Mais qu'on aille le présenter, par exemple, à Ouida, dans le fort portugais, qui est un lieu magnifique, un lieu historique, où des populations, les non-publics dont je parlais hier, peuvent venir le voir, mais qu'il y ait 2 heures de retard, que le spectacle qui dure 1 heure dure 3 heures parce qu'il est entrecoupé de pauses, etc. Je dis, bon, les gens de Ouida, qu'est-ce qu'ils ont vu? Voilà.
Non, mais j'ai failli dire finalement que de me trouver un peu encore étranger à cette table. Mais je me dis, ce qui m'a poussé à réfléchir un petit peu et dire, voilà, quelle esthétique, tout en partant d'un cas particulier, c'est-à-dire, moi je parle en tant que metteur en scène et que comédien, là, et non pas autre chose, je dis peut-être il faudrait aller... Bon, alors, comme ça, c'est bon. Il faudrait peut-être aller vers... chercher dans le sens de quelque chose qui désenclave. C'est-à-dire aller vers ça. Et moi, bizarrement, bon, c'est un hasard hein, que je suis à côté de José. Aujourd'hui, je suis plus... Je pense que aller vers les mots, c'est salvateur. Bon, c'est un avis personnel. Aujourd'hui, où on va beaucoup vers le corps, les images, tout ça, moi, je pense que les images, quoi qu'on fasse, ça arrête. Le corps, à un moment donné aussi, il a ses limites. Je me rends compte que c'est les mots, la poésie et les mots, c'est vraiment que ça ouvre à l'infini. Et là, c'est aussi une sorte d'une réponse. Olivier aussi, il a esquissé une réponse à Ramzi hier. Moi, je pense que les mots aussi, si tous les serviteurs d'un spectacle étaient, ce que je n'étais pas du tout moi dans le temps, étaient au service des mots, c'est-à-dire de l'auteur. C'est à partir du moment où un auteur, il crée, il met au monde des mots, à partir de là, pourquoi ne pas partir justement, c'est-à-dire puiser l'esthétique d'un spectacle, d'une représentation, à partir de ces mots. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, de toute façon, moi personnellement, c'est le travail, que, c'est le sens, c'est vraiment, je travaille dans ce sens. Je n'ai pas une autre solution parce que j'ai envie vraiment d'ouvrir, disons, à l'infini, et je trouve que je n'ai pas de moyens d'ouvrir, et je trouve que les mots et la poésie qui ouvrent.
Je pense qu'on n'est pas en train de chercher une esthétique pour tout le monde et qu'il y a autant d'esthétiques que de vrais créateurs. Pour moi, il y a, pour rejoindre cette histoire de mots, en fait, les mots sont la porte aux images. C'est-à-dire que dans la culture arabe, on a eu ce débat souvent avec mon ami Pierre, et pour moi, le conte et les arts de la parole dans le monde arabe sont sont un moyen de passer, de créer des images. Le conteur n'utilise pas, utilise des mots pour aller au-delà, vers un monde imaginaire. Donc, travailler sur ça, c'est un des éléments qui permettent aussi de circonvenir à tous ces problèmes dont on a parlé, d'électricité coupée, de moyens techniques, d'espace permettant une scénographie. Moi, je suis quelqu'un qui, pendant des années, a travaillé avec une grande troupe, avec des moyens et des possibilités, quand les salles en Égypte étaient encore en état de fonctionnement, de faire des travaux où on a utilisé tous les moyens visuels pour aussi expérimenter les choses qui n'avaient pas été expérimentées dans le théâtre égyptien, le corps, l'espace, parce que le décor pour nous c'était des décors réalistes, genre les décors de pièces de boulevard qu'on voit au théâtre ce soir par exemple. Donc on a beaucoup travaillé sur l'image, sur le corps qui fait partie de l'image, sur des choses comme ça. Et petit à petit, avec les problèmes croissants du pays, le dysfonctionnement des théâtres, la difficulté de maintenir des équipes importantes, le fait que tous les gens avec qui que j'ai formé ou dévoyé d'autres professions, des architectes, etc., qui ont travaillé, des photographes qui ont travaillé avec moi, ont fini par travailler pour Amr Dieb, le grand chanteur, faire des clips, des choses comme ça, et que je suis obligé, comme Brigitte l'a évoqué hier, de former de nouvelles personnes tout le temps. Donc, moi, je crois que petit à petit, le travail sur le conte m'a fait découvrir des possibilités très importantes. Et je veux dire, ça fait partie aussi d'une chose que je conseille les jeunes metteurs en scène, parce que nous, on a un programme important d'apprentissage en Égypte, comme moins organisé que l'Hamra de cette façon-là, mais on forme constamment des jeunes à tous les métiers de théâtre. Et je vois souvent que les gens vont chercher l'esthétique ailleurs, comme si l'esthétique c'était quelque chose qu'on pouvait importer. Donc on a beaucoup de spectacles en Égypte qui soit sont des reproductions de spectacles vus au Festival expérimental du Caire ou ailleurs, et qu'on reproduit à l'infini. Et quand nous avons travaillé dans la tradition à créer des spectacles contemporains en rapport avec la tradition égyptienne, les traditions de représentation populaire égyptienne qui préexistaient le théâtre à l'occidental, on a commencé une mode et les gens ont commencé à nous imiter. Et dans les deux cas, il y a un problème. Les gens plaquent une esthétique plutôt que d'être à l'écoute, aussi bien à l'écoute de soi qu'à l'écoute, pas de l'autre, mais des autres, et forger des esthétiques dans la liberté que créent ces possibilités à l'infini qui existent aujourd'hui. Et puis, le plus important, je veux dire, est-ce que l'émotion, c'est esthétique ? Hier, par exemple, je ne sais pas, vous avez entendu le texte de Ali Amoussalam. Bon, c'est
plutôt collé, c'est l'émotion esthétique.
Hein ?
C'est l'émotion esthétique.
Donc c'est l'esthétique au service de quoi ? Oh, l'émotion.
Et donc, en fait, Hassan a repris, et sans le savoir, la deuxième question justement que je voulais poser, qui était justement autour de la formation, parce que j'ai senti chez vous tous vraiment une envie de transmission dans ces formes justement de théâtre politique qui sont évidemment toutes très différentes, etc., et dont justement on ne va pas du tout chercher à nier l'originalité, hein, c'était vraiment plus pour essayer de trouver des lignes. Mais donc on voit par exemple dans El Amra, vous avez tout un programme de formation. Hassan, pareil, m'a expliqué à midi qu'ils avaient un système différent en fait de formation qui était à travers un système de maître. Donc ils essayent d'avoir un élève qui va suivre un maître dans le très très long terme. Et puis Dorcy m'expliquait qu'il était en train de créer en fait un système de formation professionnelle, et donc il était allé vers le ministère de la formation et des métiers pour essayer d'avoir un interlocuteur, parce que ce n'était pas du tout possible à travers le ministère de la culture. Donc je sens, Fida, je n'ai pas eu le temps de parler de ça ni José, mais je sens à travers vous tous en fait cette volonté du théâtre politique pour demain à travers cette formation, ou en tout cas d'une volonté de transformation aussi du cadre dans chaque pays. Donc j'aurais aimé que chacun peut-être explicite un peu mieux comment ça se passe. Et,
En fait, d'ailleurs, ça rapproche le langage de la diglossie, parce qu'on a parlé beaucoup de diglossie, mais on a parlé comme usage simultané de deux langues dans un ouvrage, dans un texte, etc. Mais il y a une fonction qu'on n'a pas soulignée aussi, c'est que la diglossie, c'est une fonction de distinction. C'est-à-dire que ça emmène une espèce de hiérarchie du langage. Par exemple, s'exprimer dans un français correct, je reviendrai, enfin, en tout cas, ce serait mieux, si vous voulez, que s'exprimer dans une langue vernaculaire ou quelque chose comme ça. Enfin, on peut prendre pour exemple les romans de Chester Himes, où quand il s'exprime en tant que narrateur, c'est dans un anglais correct, mais quand il fait parler ses personnages, il fait des onyx, en fait, donc qui est le langage populaire des Afro-Américains. Donc de cette façon aussi, il se distingue de son personnage, de son distinction. Et ça revient même pour l'esthétique, c'est-à-dire qu'avec l'exemple qu'il a donné tout à l'heure, Kanye Allen, de Cocuvito. Il a dit que ce qui faisait rire, c'était le fait qu'il venait du village et que son accent particulier, en tout cas cette façon de s'exprimer, déjà ça faisait rire parce que c'était en décalage par rapport à la façon dont on parlait à la ville. Ensuite, il a dit qu'il est parti au Gabon pour essayer de se lancer là-bas. Ça n'a pas marché. On peut supposer que c'est à cause peut-être pas du langage, mais je pense qu'il y a une part de l'esthétique qui joue. Puisqu'en fait, aussi, un autre artiste de concert parti est venu en France. Il s'exprime en français, mais ça n'a pas fonctionné non plus. Donc ma question, c'était, est-ce qu'il y a des lieux où l'esthétique et le langage réunissent, et est-ce qu'il y a des lieux où ils séparent, en fait, où ils hiérarchisent?
Est-ce qu'après, on pourra parler de l'esthétique, ou c'est fini?
Non, après, l'idée, c'est qu'on pose encore quelques questions à la table ronde, et puis qu'on repasse. Je voulais répondre par rapport à l'EPRA et la formation. Voilà, quelqu'un voulait répondre à la question de... Peut-être
Moi, je voudrais prendre un exemple peut-être pour montrer que ce n'est pas forcément ni une distinction ni une hiérarchie, mais qu'il le montrait bien tout à l'heure, le collègue du Togo, c'était lié à, je dirais, des codes locaux. Et je voudrais te parler d'exemples qu'on a fait justement avec Hassan de Warcha, les contes du désert qu'on a collectés. Ils ont été collectés en amazigh, ils ont été traduits en arabe, ils ont été édité en français et en allemand, sans hiérarchie aucune, mais comme transmission, mode de transmission.
Ma question, c'était, est-ce qu'il y a des lieux, ça sépare, il y a des lieux, ça rassemble, donc c'est pas juste une question de hiérarchisation.
Oui.
J'ai demandé s'il y avait des lieux où l'esthétique et le langage séparent, et des lieux où l'esthétique et le langage rassemblent. C'est ma question, c'est pas si tu parles de hiérarchisation. Effectivement, je devais évoquer donc, pour la diversité, parce que ça peut aussi avoir une fonction de hiérarchisation, mais la diversité peut aussi avoir une fonction de hiérarchisation. Donc la question est celle-ci, c'est le langage comme esthétique, est-ce qu'il y a des lieux où il rassemble et des lieux où il sépare?
C'est juste, je vais intervenir rapidement. Moi, je crois que c'est, à mon avis, ce n'est pas question d'esthétique. Là, le cas que vous avez cité, c'est l'humour, tout simplement. Il y a un humour que certains comprennent et l'humour que les autres ne comprennent pas. L'accent du monsieur, là, il est du Gabon, du
Togo.
Il n'est pas compris, tout simplement. Les gens.
Pas avoir l'esthétique.
Je ne crois pas.
L'humour n'a pas avoir l'esthétique. C'est une question.
Comme je n'avais pas prévu de faire intervenir tout de suite la salle, après, sinon, je ne vais pas m'en sortir. C'est juste, peut-être qu'on peut dire déjà que si on était tous pareils, il n'y aurait peut-être même pas l'anthropologie.
et que si on était évidemment qu'on va pas tous lire la même chose. Enfin, moi ça me semble évident que l'humour de toute façon est quand même lié à un contexte socioculturel et que voilà, on peut pas rire tous de la même chose. C'est juste un point de vue. Hein. Donc je vais revenir à Cyrine, excusez-moi.
Il y a juste aussi une question de style peut-être. Là, oui. On parle de style.
Excusez-moi, mais vraiment, là, je vais faire ma chef. Donc, Cyrine Ganoun avait très envie de nous répondre sur la question de la formation faite à El Hamra, et ça nous intéresse tous. Allez.
Alors, donc, depuis plus d'une dizaine d'années que la formation est au centre donc, du travail du théâtre El Hamra, donc par, comme on l'a bien détaillé, j'ai pu le détailler hier, par le centre de formation arabo-africain qui existe depuis 12 ans. Alors, principalement, dans ce centre, on travaille sur le corps. Donc, dans les ateliers... ils portent tous, donc les trois ateliers de la journée, ils portent tous le mot corps. Donc nous avons la voix du corps qui est dirigée souvent par une chanteuse, une soprano. Donc principalement on travaille avec Alia Selami qui est notre fierté, notre soprano nationale. Et on travaille aussi, donc ensuite on a l'anatomie du corps. Donc ça c'est un atelier que j'ai le plaisir d'encadrer depuis là, c'est la deuxième promotion, mais nous avons bien entendu travaillé avec, avant cela, des chorégraphes. Il y a Raja Benamar, il y a Sofiane Lara, enfin plusieurs chorégraphes, danseurs qui ont intervenu donc pour la préparation, on va dire, physique. Et donc l'atelier, le grand atelier de l'après-midi qui est dirigé par Monsieur Ganoun, c'est les mots du corps. Alors il y a le mot mot aussi, mais encore une fois dans ces ateliers, c'est vraiment quelques mots, c'est des petites charnières utilisées par-ci par-là, mais le travail reste principalement sur le corps. Donc tout à l'heure, voilà, quand on parlait d'esthétique, mais nous, en tout cas, le corps dans notre travail n'a pas de limites. Au contraire, moi personnellement, dans tous les travaux, bien sûr, que j'ai vus, que ce soit dans notre compagnie ou autre, le langage du corps est universel. Donc on a pu travailler avec des spectacles partout dans le monde sans avoir besoin de surtitrage, avec de beaux textes. L'un n'empêche pas l'autre, de magnifiques textes, et on travaillait dans des pays qui comprenaient pas du tout le spectacle, mais qui riaient aussi, qui riaient à des moments complètement différents des rires qu'on pouvait avoir en Tunisie sur des vraies vannes tunisiennes. Il y a des moments qui interpellent dans des endroits, qui n'interpellent pas dans d'autres. Et je vais même vous raconter une anecdote, juste pour là, en l'occurrence par rapport au texte, mais qui me surprend à chaque représentation. Dans le spectacle The End, il y a donc un moment, le personnage principal, donc Nejma, qui parle de sa mort, comment elle souhaite que ses funérailles aient lieu. À chaque fois, elle dit elle est en train de leur décrire les fleurs qu'elle souhaiterait avoir. Donc voilà, je voudrais elle énumère des roses, des plusieurs fleurs. Et puis après, elle arrive, elle dit je veux pas. Donc il y a des roses spécifiques qui ont été utilisées lors d'une rencontre de rencontre très désagréable qui a eu lieu avec un comité artistique en Tunisie. Donc ça datait depuis 2007. Donc la comédienne en est sortie traumatisée, la personne, la femme, elle en est sortie traumatisée de cette rencontre. Donc elle utilise l'anecdote et elle dit pendant le spectacle, tous les fleurs, sauf, donc je connais pas le nom en français, je suis désolée, mais elle dit, donc sauf le kromfl, donc je sais pas c'est quoi en français, je veux pas ces fleurs-là pour mes funérailles, parce que ça me rappelle cette fameuse réunion avec, on va dire, le syndicat des artistes tunisiens en 2007. Et même dans toutes les villes, dans tous les pays, tout le monde rit. Et moi, j'ai pris rituel à dire à chaque fois, le jour de la représentation à M. Ganoun, je dis, mais ils étaient présents, ces gens-là? Ils gardent quel souvenir? Mais alors que tout le monde rit à cette vanne-là. Bon, ça, c'est par rapport au texte. Mais pour revenir au spectacle, nous avons toujours été agréablement surpris par la réception du public de nos travaux, sans pour autant donc se baser sur le texte. Donc pour revenir sur la formation, on est principalement axé sur la formation, sur le corps. Qu'est-ce qu'il peut véhiculer? Au même moment, il peut donc faire passer un message qui est compris par l'un, qui est compris à l'inverse par l'autre. Il y a des endroits qui sont plus retenus sur le corps. Dans beaucoup de pays arabes et musulmans chez nous, le corps, il est quand même... on connaît la place qu'il prend, il est assez occulté, il y a un rapport très conflictuel. On ne voit pas le corps dénudé. Donc, ce rapport-là, on voit certains mouvements entre, par exemple, un acteur homme-femme, certaines choses qui sont perçues. On sent une tension, par exemple, qui peut exister dans la salle, qu'on ne voit pas, bien entendu, quand on joue le spectacle en France ou en Europe. Donc, principalement, on travaille sur ce mode de pour véhiculer l'émotion, pour véhiculer les messages, pour travailler donc dans un théâtre, encore une fois, politique, assez engagé, et véhiculé principalement par le corps, en tout cas. Voilà, au théâtre El Hamra, en tout cas, c'est comme ça que
on fonctionne. Donc c'est une formation, par exemple, par session, on a des sessions d'une semaine, puis un mois plus tard, une autre session, ou c'est pendant 3 mois tout le temps, comment ça se passe?
Alors, donc c'est des promotions, donc ils appellent ça donc une promotion, qui font chaque fois 3 degrés, Donc on a le premier degré qui, alors il dure tous 15 jours en général. Donc un premier degré, donc je prends la formation des acteurs. Donc il y a uniquement des acteurs qui font un premier degré où on revisite les basiques, donc des exercices sur le corps, les fondamentaux, le texte, les états, les émotions, les relations corps-objet, corps-partenaire, tout ça. Et donc après il y a un deuxième degré. Alors pendant le deuxième degré, c'est une formation, on va dire, où on va essayer de créer un petit peu plus, aller dans une écriture avec le corps, et on intègre en général, en partenariat, donc en même temps, simultanément, un stage avec les dramaturges. Donc il y a les acteurs sur scène de deuxième degré, et il y a des dramaturges qui vont, pendant la première semaine, travailler séparément. Donc ils font des exercices dans des ateliers, les dramaturges, et nous on travaille sur des exercices sur scène. Et la deuxième semaine, ils vont s'imbiber de ce qu'ils vont voir, des résultats de certains exercices et improvisations, et ils vont écrire des textes, ou vraiment des petites ébauches de textes qu'on va mixer dans une démonstration finale au deuxième degré. Et pendant le troisième degré, donc c'est encore plus approfondi, plus élaboré, on va ramener donc toujours le même groupe. Alors pour les acteurs, c'est toujours le même qui reviennent, qui font les 3 degrés. Les dramaturges reviennent aussi au troisième degré, et on fait un troisième atelier qui est pour les metteurs en scène. Là, en l'occurrence, donc comme on a une vingtaine de stagiaires, on va ramener 4 ou 5 metteurs en scène en formation qui vont travailler par groupe sur ces acteurs qui ont fait 2 degrés. Pendant le troisième, donc les encadreurs encadrent les metteurs en scène pour qu'ils travaillent pratiquement et sur le tas avec 5 acteurs, et chacun présente une démonstration finale. Et là, on appelle ça une promotion. Donc une promotion, en général, c'est une vingtaine d'acteurs, une dizaine de dramaturges et cinq metteurs en scène. Et puis après, on renouvelle la génération. Mais il y a eu quand même de la formation en ingénierie culturelle, il y a eu des ateliers en son, en lumière, voilà. Et juste, voilà, pour finir, je voudrais revenir sur les problèmes logistiques qui ont été signalés tout à l'heure, qui restent quand même un problème majeur. Que ce soit en logistique, parce que nous n'avons pas de formation dans ces métiers-là, en tout cas dans nos pays, en Afrique. Et pour venir ici, pour faire cet apprentissage, c'est excessivement cher et malheureusement, c'est pas donné à tout le monde. Et encore une fois aussi, en ingénierie culturelle, pour faire un festival, c'est un métier. Les gens, c'est des coordinateurs, c'est des organisateurs. Alors qu'en général, on trouve, c'est les acteurs qui sont qui font tout, en fait, qui font de l'administratif, qui font de la manute, qui peut... Mais c'est ça. Voilà, c'est... On est polyvalent, et donc parfois avec des matériaux extrêmement vraiment archaïques, on est obligé de faire avec. Et même si, et ça c'est encore plus malheureux, ça nous arrive en Tunisie d'avoir un beau matériel où l'État ou dans un festival s'investit dans des micros derniers cris, tout ça, mais ils ne savent pas les utiliser. Donc ça fait, ça donne le même résultat. Donc la formation, Là, en tout cas principalement, et j'espère que dans les années futures, moi c'est pareil, j'ai été contaminée par cette donc ferveur de travailler sur la formation, et maintenant moi je souhaite principalement m'orienter vers l'ingénierie culturelle. Pour le moment ça avance très très bien avec donc l'IFC, on a des formations prévues courant le mois de juin, où nous avons la chance d'intervenir, et je pense que c'est l'avenir, c'est les métiers d'avenir en Afrique, c'est l'encadrement, la formation en ingénierie culturelle, la formation dans les métiers à côté, donc du métier d'artiste, uniquement de créer, pour justement le décharger complètement à son art, pour qu'il puisse créer, et qu'il y ait un corps de métier qui professionnel et bien formé qui existe dans nos pays respectifs, voilà, en Afrique.
Donc c'est intéressant, cette idée de l'art comme outil de développement, je pense que c'est essentiel et qu'on a pas mal de travail par rapport à ça suite à nos amis du FMI, et donc qui ont quand même plutôt poussé dans l'inverse de la situation. Mais voilà, j'aimerais écouter Hassan sur cette idée du maître et de l'élève, et de comment tu fonctionnes toi dans ta nouvelle idée de formation.
Bon, nous... on travaille dans une perspective de formation pas permanente, mais éternelle. C'est-à-dire que les gens entrent et travaillent, sont formés, parfois par des... Non, pas des ateliers, on fait pas de stage, mais on forme les gens tout le temps aux techniques de base. Pour les acteurs, par exemple, on travaille sur l'art de raconter, qui pour nous... important pour la communication entre acteurs et public. On travaille la voix, on travaille le chant, on travaille la danse du bâton, c'est-à-dire on travaille des techniques différentes qui peuvent changer d'une période à une autre, parce que nous faisons des spectacles à partir de mois ou d'années de recherche et de formation, c'est-à-dire chaque projet exige de nouvelles formations, et c'est souvent les mêmes acteurs qui continuent d'année en année, puis qui s'en vont, qui reviennent ou pas. Donc c'est une sorte, on ne fait pas d'atelier au pluriel, mais la troupe s'appelle l'atelier, et c'est un atelier permanent. Mais maintenant nous avons une autre sorte de travail, ça s'appelle en arabe Mujawara ou Mugawara. C'est l'idée de gar, c'est voisin, c'est des voisinages, des accompagnements, des apprentissages, où des jeunes professionnels déjà d'un certain niveau vont choisir ou vont être introduits à des maîtres et vont travailler avec eux, soit d'individu à individu ou alors de petite équipe à maîtres. Et là, c'est un chanteur nubien que j'ai entendu, qui est le dernier à chanter en nubien de cette génération-là, jeune, mais il chante dans les mariages, il adapte ses textes, et il prend des chansons égyptiennes en arabe pour lesquelles il écrit des paroles, etc. Et il a du talent, mais bon, il a besoin d'être étayé, son travail, par d'autres. Donc nous, on l'a fait travailler sur sa voix, parce qu'il n'ouvrait pas la bouche, il avait une belle voix, donc maintenant il respire, il ouvre la bouche, etc. Il a rencontré les grands intellectuels nubiens qui lui ont parlé de l'histoire de la Nubie, il a lu les romans nubiens, il a travaillé avec des chanteurs traditionnels, il a appris des choses. Donc il y a toute une équipe avec laquelle il a pu travailler, outre notre travail technique sur la façon de se présenter, etc. Et ça, on le fait pour un certain nombre d'individus et de groupes. Par exemple, il y a un groupe qui a écrit un spectacle, qui a joué un spectacle sur les 18 jours de la Révolution, qui s'appelle Hakawi Tahrir, qu'ils ont traduit en anglais en Tahrir Monologues. Et c'est le groupe qui veut continuer et être, de fait, le premier groupe, la première troupe de conteurs en Égypte. Ils se sont professionnalisés petit à petit. Alors nous, on leur accorde des salles de répétition, un lieu pour présenter leurs nouveaux travaux, puis partir de là. On les a recommandés à des lieux différents dans le pays, comme à Ménia au Moyen-Égypte, qu'on a vu hier en image, à Alexandrie ou d'autres, où ils peuvent tourner. on leur propose de l'aide technique pour améliorer la qualité du son et de la lumière dans leur spectacle. S'ils veulent un conseil artistique, on ne force pas, enfin, on les oblige pas.
Sur cette base un peu parce que vous prenez d'amitié pour un
groupe
comme ça.
Oui, oui, oui.
Par exemple, ce chanteur.
Oui, c'est plus que d'amitié. Je veux dire, il y a une admiration. Il y a une admiration et un désir de faire fructifier
cette énergie-là.
Cette énergie-là, voilà.
Oui, non, je me sens un petit peu dedans, c'est pas grave, je me sens... Je me sens un peu loin en même temps, mais ça peut être intéressant dans le fait que ce que produit Alice relèverait presque de... que de l'esthétique, et donc ça a des effets parfois étranges, notamment à l'étranger, enfin, par exemple, la première fois qu'on est allé en Égypte, où le travail n'est pas forcément pris pour ce qu'il est, mais vu sous l'angle de la technique, des techniques qu'il met en œuvre, et donc n'est même pas pris pour un spectacle. Enfin, c'est en tout cas, il y a un décalage, un dérapage qui se produit. Par, alors c'est par la nature du spectacle lui-même qui n'a pas de propos politique en lui-même. Mais je dirais que c'est la poétique et le rapport au langage qui met en œuvre, en tout cas pour moi, qui est de l'ordre du politique. Parce que pour moi, c'est une question fondamentale, humaine, que je traite comme ça dans cette pratique de la relation au signe, à la construction d'un langage scénique. Pas forcément verbal, donc plutôt d'images et de sons, d'objets, d'actions, même si aujourd'hui c'est la forme des mots, mais la forme des mots écrits qui devient aussi un objet du spectacle. Et du coup, ça rejoint la formation. Par rapport à ces effets, c'était très important pour nous, au lieu de circuler et de montrer ce qu'on faisait, puis voilà, c'est ce que fait la France, c'est ce que... C'est la scène contemporaine française, voilà. Ce qui était assez insupportable. Donc on avait réussi à imposer à ce qu'était l'AFA à l'époque de toujours faire plusieurs représentations d'une part, et d'autre part, justement une formation, enfin un travail, c'est pas que j'ai une formation, c'est au moins un travail de deux jours avec des gens, que nous-mêmes nous rendions compte là où on était, ce qui n'était pas évident, parce qu'on a mis même du temps à nous connaître, à nous... nous accepter mutuellement, enfin savoir d'où on venait, où on était, quels étaient nos complices, les gens avec qui on était. Donc voilà, ce rapport entre du coup formation et esthétique, il devient un enjeu pour nous, parce que c'est aussi un moyen de ne pas être là simplement de manière arrogante. L'esthétique peut être arrogante aussi.
Est-ce que tu avais toi aussi un projet de formation?
Non, pas du tout. Pas du tout. Oui, en fait, mais il y a quelque chose que moi je ne supporte pas du tout, mais que je trouve très utile. Ça fait penser à l'action culturelle quand on fait autour d'un spectacle. Mais c'est tout.
Oui, en fait, au Rwanda, justement, voilà, pour revenir à la formation, c'est-à-dire. On est dans un pays qui a été très longtemps sous une dictature de parti unique et qui dénonçait beaucoup les arts, en fait, et qui n'a quasiment rien investi, pas de structure, pas d'infrastructure, effectivement, pas de salle, quasiment, sauf à l'université à Boutaré. Et donc, c'est un travail très difficile pour les artistes, justement, de trouver à la fois les moyens pour travailler, mais les lieux, le circuit et tout. Et l'autre chose, c'est qu'on s'est rendu compte que les artistes, il y a vraiment des gens de talent qui ont des choses à proposer, mais qui sont très, très mal entourés, du coup. Et donc, il était nécessaire à la fois vraiment de s'engager dans une formation qui ne soit pas seulement artistique, mais comme disait Cyrine, c'est ça, à la fois vraiment proposer, inviter des artistes pour venir transmettre quelque chose qui vienne de partout, parce qu'on a envie de s'inspirer du monde entier, pas nécessairement uniquement d'Europe, mais venant aussi des pays limitrophes, de l'Afrique ou même de l'Asie, mais aussi des métiers qui sont tout autour. Effectivement, la gestion culturelle et les métiers techniques aussi, la régie, le son, la lumière. Et il s'avère que les expériences de pays, par exemple, avec lesquels on partage les mêmes conditions matérielles, nous intéressent beaucoup plus, par exemple, enfin, en Asie, en Inde, au Brésil, où ils trouvent des moyens alternatifs, effectivement, pour créer des lieux, pour les mettre en lumière, pour faire une gestion aussi qui est très différente, parce que souvent, on arrive d'ici, enfin moi j'habite à la fois dans les deux pays, donc on arrive d'ici avec un kit complet de comment ça doit se faire, mais c'est adapté à des pays occidentaux où il y a beaucoup plus de moyens. Et on se trouve sur place avec des schémas de gestion et de production qui ne correspondent pas du tout en fait avec le lieu. Et du coup, voilà, avec la structure là-bas qui s'appelle Rwanda Arts Initiative, on a créé un format qui est plus un symposium. Au lieu de faire un festival, il y aurait des spectacles qui viendraient et qui partiraient seulement. Mais c'est plus un symposium où on peut avoir des débats, des performances et de la formation, et en même temps mettre les gens en réseau. Et le discours qu'on tient aux autorités qui, comme dans beaucoup de pays africains où il n'y a pas d'argent pour la culture, quasiment pas, donc ça ne sert quasiment à rien d'aller au ministère de la Culture, c'est plus de leur dire, voilà, ce sont des métiers comme d'autres qui vont développer le pays et ça peut participer justement à l'effort et à l'économie du pays. Et engageons-nous dans la formation de ces métiers-là comme on s'engage dans d'autres métiers. Et ça fournira du travail. Donc, du coup, l'État nous aide. Dans l'idée, on ne rentre même pas avec eux dans un débat sur la nécessité de la culture, quelle esthétique, non, rien, juste... créer des jobs. Voilà.
Merci beaucoup. Je crois qu'on va devoir arrêter là. On a maintenant normalement la discussion en haut, mais peut-être qu'on peut faire d'abord la lecture, puis la discussion clôture. Je pense que ce sera plus simple.